Je dis ça parce que Natacha Valla est avec nous. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Car elle est aussi présidente du Conseil national de la productivité, senior advisor chez doyenne pardon de l'école du management de l'innovation de Sciences Po, et vous avez coécrit Le futur de la monnaie. Il est numérique, Le futur de la monnaie, Natacha.
Mais oui, je ne le nie pas.
Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord et économiste atterré, membre du manifeste pour l'industrie. Ça tangue chez les atterrés, vous m'avez dit.
Oui.
Je sais pas, il faut que j'arrête de vous présenter économiste atterré, vous me le dites.
Oui, je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave.
Ah bon, j'ai eu un doute, c'est pour ça que. Voilà.
C'est pas grave. Ça reviendra sans doute.
Je biffe. Christian Saint-Etienne, bienvenue.
Bonjour.
Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Cercle des économistes. Vous avez écrit Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, collection Alpha. Est-ce que c'est grave les chiffres que j'ai donnés, Christian ?
C'est inquiétant.
Ça fait 50 ans, la 50e année de budget dans le rouge.
C'est inquiétant.
On peut vivre avec, finalement.
C'est inquiétant parce que ça renforce la seule place de numéro 1 en économie mondiale que personne ne nous conteste, c'est-à-dire le record du monde de la dépense publique. Sachant que, j'anticipe les débats futurs, le point clé, c'était toujours, et on recommence la pédagogie, c'est la question de l'efficacité de la dépense. En 2024, parce que là on cite les chiffres de 2022, mais il y avait les mécanismes de compensation sur les prix de l'énergie. En 2023, selon la Commission européenne, on sera un petit peu au-dessus de 56 points de PIB, mais c'est 8 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays de la zone euro. Et si cet excès de dépenses publiques nous donnait 4% de croissance, 3% de taux de chômage et une sécurité parfaite sur le territoire, moi je vote pour. Donc la question, c'est celle de l'efficacité. On a une dépense colossale avec un déficit qui nous éreinte et en même temps des services publics à la dérive. Donc c'est une restructuration de la dépense publique.
Mais c'est le chantier d'une vie, Christian.
Mais c'est le chantier d'une vie. C'est notamment le chantier de votre vie, Nicolas. Parce
pense que dans 10 ans, vous aurez encore des mauvaises nouvelles de déficit à annoncer.
Mais si vous me dites que dans 10 ans, j'aurai des mauvaises nouvelles de déficit à annoncer, c'est que finalement l'heure de vérité n'est pas là. Bon, ben très bien, alors on a le...
Ah, j'ai pas dit qu'entre-temps, on sera pas pris des baffes.
Parce que c'est sûr qu'on va probablement se faire dégrader la fin avril. Oui. Ça va être une humiliation, mais je suis persuadé que dès le lendemain, l'Agence France Trésor placera nos dettes sans aucune difficulté. Oui. Et que le spread avec l'Allemagne ne bougera pratiquement pas. Seulement, c'est pas brillant parce qu'on va se prendre une dégradation.
Non, mais c'est surtout inquiétant à cause de cette inefficacité de l'action publique.
C'est le plus gros déficit de la 5e République hors crise et récession. C'est une année de TVA. Voilà, 154 milliards d'euros et encore celui de l'État est encore plus élevé. C'est grave, docteur Lang.
Alors, moi, évidemment, je ne vais pas être d'accord avec ça.
Vous n'allez pas être d'accord avec quoi, d'abord ?
Avec l'ensemble des choses qu'a dit Christian Saint-Etienne, même si lui est modéré et qui sait quand même... Voilà, c'est...
Mais... il n'y a pas de problème d'efficacité de l'action publique.
Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème d'efficacité de l'action publique. Par contre, moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est les réactions politiques. L'économie ralentit et que derrière, on va couper dans la dépense publique, on a déjà fait ça et on a déjà vu les effets que ça a. Ça aggrave la dette et ça aggrave le déficit. C'est pas nouveau. Je pensais qu'on avait appris des années 2010-2011.
Et c'est la dépense, vous dites, aggrave le déficit.
Non, c'est le c'est
coupé dans la dépense.
Coupé dans la dépense publique, oui, aggrave le déficit.
C'est un effet récessif.
Mais évidemment.
Ça dépend
évidemment.
Où on coupe.
Mais ça dépend
évidemment,
où on
évidemment, mais là, sur les 10 milliards qui ont été coupés, j'en suis désolé, on a coupé dans l'éducation, on a coupé dans des dépenses qui sont plutôt efficaces à mon sens, donc voilà. Alors ceci dit,
904 milliards dans la recherche et l'université.
Exactement, alors que l'université est déjà exsangue.
Je vous tends la perche, là, vous avez vu, c'est vraiment du pavé.
Non, mais je vous rappelle que je donne cours dans des amphis qui ne sont pas chauffés en hiver, où il pleut, et où les étudiants se battent comme ils peuvent. Et puis il n'y a plus de moyens pour la recherche. On passe notre temps à remplir des papiers pour
Dany Lang, si on dit ça veut dire qu'on se prend 154 milliards de déficit, on démarre l'année avec un acquis de croissance qui n'est pas là, et on continue parce qu'on se dit que de toute façon, si on fait quelque chose.
Mais Nicolas, quand vous conduisez.
Oui, plus beaucoup, mais...
Moi, je conduis. Quand la voiture ralentit et qu'elle ne roule pas assez vite, j'appuie pas sur le frein. J'appuie sur l'accélérateur.
Ça voudrait
quand elle roule trop vite, j'appuie sur le frein.
Et dans la circonstance, appuyer sur l'accélérateur, c'est quoi ?
Ce serait justement augmenter la dépense publique plutôt que la diminuer. C'est dans les périodes où ça va bien. Justement,
oui,
si on était dans une période telle que vous la décriviez tout à l'heure, ce serait effectivement le moment de baisser la dépense publique, d'augmenter les impôts. Mais là, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Et puis, on nous dit souvent la dépense publique par rapport au PIB. 56%, ça veut pas dire que c'est 56% du PIB. On compare à une grandeur familière. Mais si on regarde la dépense privée, c'est 250% du PIB. Je veux pas dire, ah mon Dieu, il faut arrêter l'investissement, il faut arrêter la consommation. Non, on compare ça à une grandeur familière.
Oui,
on compare ça. C'est une comparaison.
Se comparer avec les autres pays n'est pas totalement insensé.
Oui.
On compare la dépense des pays qui nous ressemblent, qui ont des modèles sociaux pas forcément identiques à notre État-providence,
qui
rémunèrent moins les retraités, par exemple. Mais
Je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème d'efficacité, et notamment, je serais, moi, favorable à ce qu'on regarde un peu plus près les 160 milliards d'aides aux entreprises qu'on verse chaque année. Mais oui, mais c'est le chiffre d'Anne-Laure Delatte, c'est un chiffre qui est corroboré par les travaux du Clercé.
Non, mais je suis d'accord.
Je suis pas pour qu'on coupe dans tout. Hein. Une fois de plus, l'aide aux entreprises, notamment pendant le Covid, j'avais dit qu'il fallait pas faire des prêts garantis par l'État, mais aider directement les entreprises. Maintenant, on en voit les conséquences. Vous avez vu les tribunaux de commerce?
Ah, j'ai vu.
À quel point ils sont engorgés? On aurait dû les aider directement, point barre. Donc maintenant, on crée une contrainte en plus. Avec ça, sur la reprise de l'investissement privé.
Natacha va remettre de l'ordre.
Elle va mettre l'église au milieu du village. Moi j'avais 140 milliards le total de ce que les entreprises perçoivent d'une manière ou d'une autre. L'essentiel de ce montant.
Pour compenser des contraintes mises en place par l'État.
Il y a pas loin de 100 milliards qui sont des allègements de cotisations.
Voilà.
Oui.
Parce que le modèle social coûte cher et qu'on n'a plus assez d'actifs pour le payer, donc on allège les cotisations de manière à ce que les gens aient un boulot. Parce que sinon, il n'y a plus de compétitivité du tout. Donc Christian nous dit il faut de la dépense efficace. En plus, je suis d'accord avec vous sur le côté contracyclique. Oui, effectivement, c'est pas quand il pleut qu'il faut.
Sur le contracyclique, il faut laisser parler.
Allez, Natacha.
Natacha, parce que j'ai plein de choses à dire.
Qui est discrète.
Trois points.
Non, mais qui est atterré, c'est le cas de dire.
Le contracyclique versus le structurel, la question de l'acceptabilité politique de ce que ça implique, et puis ensuite, quand même, les marchés, parce que je vous trouve bien à l'aise sur ce qui va se passer par la suite.
Ah oui, j'ai oublié. Je suis juste au demeurant. Sur les marchés, la dette publique à 10 ans, on est à un taux de réel quasiment nul. Donc 3% sur les OAT à 10 ans, 3% d'inflation.
Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de warning.
En Grèce, en octobre.
Mais vous voulez.
Non, mais en Grèce, en octobre 2010, mais tout allait bien.
Hein, oui, excusez-moi, Christian, la Grèce, elle avait.
Non, mais c'est pas comparable.
Christian, la Grèce, elle avait grugé sur son déficit. Il était deux fois plus important que prévu. On découvre.
Et nous, on était à 4,8, on se retrouve à 5,5.
Mais on n'a pas menti. On n'a pas dissimulé, menti. La situation est moins bonne.
Je trouve.
Avant un accident, tout va bien.
C'est vrai qu'un accident de crédit peut. On a vu qu'avec Liz Truss, la Grande-Bretagne s'est retrouvée assez rapidement avec un petit stress.
On ne peut pas.
Je suis contente d'avoir remis ce sujet en débat parce que
je pense
qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de la main l'idée qu'avec la performance budgétaire qui a été rappelée tout à l'heure depuis des décennies et le fait que le point de départ à chaque fois change, c'est-à-dire que le stock de dettes à refinancer augmente d'année en année. Donc, tant que les taux réels sont nuls, ça va. Mais quand les taux réels vont augmenter, ça sera très, très mordant sur, justement, la dépense publique disponible pour financer d'autres choses. Donc, ça, il faut le garder en tête.
On est à plus de 50 milliards d'intérêts.
Et on n'est pas les seuls à émettre de la dette sûre, des actifs sûrs dans le monde. Il y en a plein d'autres, notamment les États-Unis, qui ont encore pignon sur rue malgré leur propre.
Avec le privilège du dollar.
Donc,
le privilège du dollar est garanti par la Banque centrale.
Il faut être très modeste par rapport à ça. Très humble et anticiper les choses en annonçant des déficits ex post qui sont beaucoup plus élevés en plus au lendemain d'une discussion sur les règles budgétaires en Europe qui sont quand même un élément essentiel. Il faut faire très très attention parce que c'est un petit peu explosif. Sur la question du structurel versus contracyclique, effectivement la politique budgétaire c'est un outil puissant contracyclique. Et effectivement, en termes de timing, il aurait fallu faire ça il y a un an plutôt que cette année. Cela dit, quand on a un déficit structurel, un déficit qui persiste d'année en année, on ne peut pas avoir la même, marge de manœuvre sur ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques qu'on aime si bien. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'effectivement, pour en revenir à la qualité de la dépense publique, parce que là, je crois qu'on est tous d'accord, si la qualité de la dépense publique n'est pas là, du point de vue de la croissance et de la productivité, d'une part, mais aussi du point de vue subjectif, en tout cas subjectif, peut-être objectif d'ailleurs, mais en tout cas perçu par le citoyen qui paye aussi ses impôts, si lui, il pense qu'il n'en a pas pour son argent et qu'on lui rajoute une hausse d'impôts dans un contexte où c'est déjà difficile pour lui, il va y avoir un peu un sentiment de révolte. Je ne veux pas payer pour des choses qui sont de mauvaise qualité. Donc, c'est cet exercice-là qu'il faut faire pour finalement trouver une... La capacité à lever l'impôt, c'est l'alpha et l'oméga, peut-être même plus, ou en tout cas en complément de l'indépendance de la Banque centrale et de la capacité à imprimer de l'euro, qui permet à un État de rester solvable. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Mais le truc, c'est que la qualité de la dépense publique et son efficacité, c'est un vrai sujet, mais ça prend un temps de dingue. Ça dépassera de loin le mandat d'Emmanuel Macron. C'est un chantier monumental. Personne n'a envie de s'y attaquer parce que les structures sont lourdes, parce que l'éducation nationale,
Les Suédois, l'ont fait. Et le
Canada l'a fait.
La réduction, et dans ces deux cas, la réduction de la dépense publique a été positive pour la croissance. C'est des exemples, alors il y a des façons de
faire. Alors, Daniel Angalesi, puis Christian, qui voulait réagir.
Laissez-moi juste réagir sur l'exemple de la Suède et du Canada. Vous parlez des années 90, où on est dans une conjoncture très particulière, et en plus, ces deux pays, en même temps, ont poussé leur taux de change à la dépréciation. Donc, c'était d'autant plus facile de faire ce genre de politique que c'était les seuls à le faire dans le monde. Donc, évidemment, quand vous êtes le seul à pousser votre taux de change à la dépréciation, et que par ailleurs, vous êtes les seuls à mener ce genre de politique, ça peut fonctionner. Si tout le monde fait ça en même temps comme en Europe, on repart comme en 2010-2011, tout le monde baisse la dépense en même temps, et ça va se passer très mal. Et par ailleurs, puisqu'on parlait de l'éducation, etc., je vous signalerai que c'est là-dedans que les coupes ont été faites.
Notamment, mais juste un chiffre quand même, parce que j'entends, vous dites, tout le monde fait tout en même temps, et effectivement, on a tous vécu la même pandémie, tous vécu le même choc énergétique, sauf que vous prenez les Pays-Bas, ils sont à 0,3% de déficit. Le Portugal a un excédent supérieur à ce qui était prévu. Ils devaient faire 0,8, ils font 1,2. L'Allemagne se dirige tranquillement vers les 60% de dette publique. On a la même monnaie, on a eu les mêmes crises, on a eu les mêmes chocs. Donc,
C'est le point clé. Donc, effectivement, sur les 5,5 points de déficit de 2023, il y a vraisemblablement au moins 3 points de déficit structurel qui existaient avant la crise. Avant la crise, nous avions 3 points d'écart de déficit vis-à-vis de l'Allemagne et des Pays-Bas. Donc, on les garde à la sortie. Si on était à 2,5 au lieu de 5,5, on traiterait ça en une minute. Le problème, c'est les 3 points de déficit structurel qu'on traîne depuis une quinzaine d'années et qu'on n'arrive pas à traiter. Alors, il faut quand même rappeler, parce que, in fine, si on fait un cours d'économie, on va être tous d'accord. S'il s'agit d'investir dans les infrastructures, s'il s'agit d'investir dans l'éducation et la recherche, on est tous favorables. Quand vous regardez la dépense publique aujourd'hui, si vous prenez l'éducation, je parle sous le contrôle de mes deux camarades, si vous prenez l'éducation, l'enseignement supérieur la recherche et développement, on est à 8 à 9 points de PIB sur les 56 points de dépenses publiques. Bon, l'essentiel de la dépense publique, c'est la protection sociale, avec les grands programmes retraite, santé, chômage, allocation familiale et prestations.
Accident du travail.
Et surtout les prestations de compensation de revenus pour les gens qui sont en inactivité.
Les transferts sociaux.
Donc quand vous regardez les 56 points, vous avez 34 points de protection sociale. C'est 2/3 de la dépense publique, c'est la protection sociale. Donc, d'une certaine façon, on va les couper dans 56 moins 34, il reste 22. On va les couper dans les 22 plutôt que dans les 34. Alors la question, c'est dans les 34, les grandes réformes. On a commencé le gouvernement a finalement fait un petit bout de réforme des retraites. Quand vous faites une réforme des retraites, c'est favorable à l'offre. Donc toute la question, c'est toujours de se dire, est-ce que les réformes qu'on fait vont favoriser l'offre ou pas ? Parce qu'il n'y a pas que la demande, il y a aussi l'offre. On a une crise d'offre en France. En fait, c'est pourquoi on a un énorme déficit extérieur ? C'est parce qu'on a une offre insuffisante.
Dit autrement, ça veut dire qu'on consomme trop et qu'on produit pas assez.
Voilà, on produit pas assez et on produit pas les produits que les gens veulent. Donc la question, c'est comment restructurer. Dany parlait et on parlait avec Natacha avant l'émission du fait que beaucoup d'entreprises vont se retrouver contraintes sur le plan financier parce qu'elles ont le remboursement des prêts antérieurs par l'État. Donc la question, là, c'est toujours celle des fonds propres de l'économie. Ça fait maintenant 40 ans qu'on parle d'avoir un complément de fonds de retraite en capi avec la retraite en répartition parce que ça donne des fonds propres aux entreprises. On n'arrive pas à le faire. Sur le chômage, on a 300 000 emplois non pourvus, 2,5 millions de chômeurs. Il y a un matching. Pourtant, ça fait 40 ans qu'on fait des réformes pour essayer d'améliorer le matching. Ça ne marche pas tellement. Donc on a vraiment une question, et puis au niveau des collectivités locales on n'en parle pas, mais il y a quand même, quand vous regardez les dépenses de collectivités locales, une vraie question sur la dérive des dépenses de collectivités
locales. Ça c'est du diagnostic qui malheureusement est connu, mais Dany Lang, allez-y.
Alors juste une réaction, je suis d'accord avec une partie des choses que vous disiez, mais sur les emplois vacants, n'oubliez pas que 86% de ces emplois sont pourvus dans l'année. Non plus, c'est normal d'avoir des emplois vacants dans une économie dynamique.
Il y a du frictionnel, donc, toujours.
Il y a toujours du frictionnel, c'est pas nouveau, c'est pas propre à la France. Même en URSS, on était à peu près à 2% de frictionnel. Donc, on va pas pleurer sur ces emplois vacants. C'est vrai qu'il y en a un peu plus qu'avant le Covid, mais enfin, ça fait pas partie du diagnostic, je pense. Par ailleurs, n'oubliez pas quand même qu'il y a les chômeurs de catégorie B et C, que moi, j'inclus dans le chômage.
Alors, ça, c'est les chiffres de Pôle emploi.
Démarches
actives. Oui, c'est les gens qui ont travaillé un petit peu.
Un petit peu, mais voilà.
Oui, mais ça conforte le fait qu'on a une offre insuffisante et une croissance insuffisante.
On va marquer une pause. J'aimerais quand même que vous entendre sur ce que disait Natacha, parce que c'est un vrai sujet, hein, de savoir si un jour ou l'autre, ce ne sera pas l'heure de vérité quand même sur le placement de nos fameuses OAT. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est vrai. Mais c'est quand même le truc le plus important. Dès l'instant où ces OAT ne partent pas comme des petits pains, notamment un jeudi sur deux entre 10h et midi, c'est là que les choses se gâtent. C'est là qu'il faut des réponses ultra rapides et ultra désagréables. Et puis, selon vous, est-ce qu'on va pouvoir échapper aux hausses d'impôts ? Moi, j'ai plein d'idées là qui sont sorties ces derniers jours. Il y en a pour tout le monde. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.